Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Pie XII, un nom qui ne dit pas peut-être grand-chose de prime abord au grand public, un nom plus connu des familiers de l'Église ou de l'histoire. Pie XII fut rien moins que le pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Une charge immense, terrible, qu'il dut probablement d'abord porter avec courage, puisque le journal Le Monde lui-même titrait à sa mort « Le pape de la paix et de l'Europe ». Pourtant, resterait une interrogation quant à son attitude face à la Shoah. Quel est le vrai du faux? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. Cette émission Vivante Église ce matin, Pie XII, le vrai du faux, avec autour du plateau Roger Attali, vice-président du CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France de Midi-Pyrénées, bonjour.
Bonjour.
Et le père Édouard Divry, dominicain, en charge des relations avec le judaïsme pour le diocèse de Toulouse, bonjour mon père.
Bonjour.
Voilà, cette émission, c'est une émission ardue, parce que le débat est immense, et quand on voit la littérature qui a été écrite sur ce sujet, ou quand on l'entrevoit, évidemment, on tremble à l'idée de ne faire qu'une heure d'émission sur ce sujet, mais je compte sur vous pour nous y aider. Peut-être peut-on commencer, Père Édouard Divry, c'est vous qui avez eu l'idée de cette émission, à tout seigneur, tout honneur, nous dire pourquoi il vous semblait opportun, même si, à votre goût, on a un tout petit peu de retard, pour la réalisation de cette émission autour de Pie XII.
Alors, deux raisons. D'une part, nous sommes en 2017 et bientôt 2018, et nous serons à 60 ans de la mort de Pie XII, donc il manque encore 10 ans pour l'ouverture des archives de Pie XII, puisqu'il faut 70 ans après la mort d'un pape pour qu'on puisse obtenir la publication intégrale des archives. Elles ont déjà été en grande partie faites avec 11 gros volumes à l'époque de Paul VI, mais tout n'a pas encore été dépouillé. Il faut dire que c'est un travail énorme. 16 millions de feuillets, 15 000 enveloppes, 2500 dossiers sur toute la période du pontificat de Pie XII, un travail énorme. Et le pape François a promis qu'il accélérerait les choses et on pourrait gagner 10 ans. Donc en 2018, nous pourrions avoir l'ouverture finale de toutes les archives du Vatican, une exception à la règle, donc que le pape François, vous savez, n'hésite pas à franchir.
Alors juste peut-être, pouvez-vous à nouveau préciser, parce que c'est vrai quand on parcourt même rapidement certaines biographies, certains se targuent d'avoir eu accès à des archives secrètes du Vatican, etc. Qu'est-ce que ça veut dire du coup quand toutes les archives sont globalement ouvertes, sauf celles que vous venez de citer, c'est ça?
C'est-à-dire que les archives sont ouvertes avec des degrés plus ou moins fortes selon les dossiers, selon les dates qui sont marquées sur les dossiers, à ouvrir à partir de... Et du coup, évidemment, même des historiens mandatés par le pape Jean-Paul II n'ont pas pu avoir accès à toutes les archives quand ils ont eu l'occasion d'y pénétrer. Alors, une autre raison utile pour cette émission, ça a été l'an passé la magnifique publication de Marc Ribling, Le Vatican des espions, et qui a montré l'implication de Pie XII, qu'on connaissait un petit peu par oui dire, mais pas aussi clairement, du fait qu'il y a eu des agents secrets en Allemagne qui travaillaient pour les services de renseignement de la Wehrmacht et qui étaient agents doubles pour le Vatican, en particulier le fameux Joseph Müller, qui a été un rescapé de la Deuxième Guerre mondiale et qui a tout raconté de ses activités en donnant des textes, des preuves, des minutes, etc., de ce qui s'était passé, et la tentative donc répétée de tuer Hitler.
C'est-à-dire que donc des espions, en partie espions pour le Vatican, en fait,
oui.
À la demande de Pie XII.
À la demande de Pie XII, travaillaient pour tuer Hitler. Et Pie XII a été donc impliqué au plus haut niveau. Et donc on comprend en partie la difficulté qu'il a eue à faire des déclarations trop fortes pour risquer, évidemment, de compromettre ses complots.
Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre de Marc Ribling, Roger Attali?
Non, pas directement, mais je pense que ce que dit le père Divry est tout à fait important, parce que ça tord le cou à une forme de politiquement correct concernant Pie XII, justement. Et donc le fait de dévoiler ce type d'action qui a été menée par Pie XII au moment de la Seconde Guerre mondiale nous permet d'avoir un éclairage un peu différent sur ce pape. Alors avec un tout petit peu d'ironie, je dirais, peut-être y a-t-il une dimension juive aux 70 ans, puisque c'est une une dimension symbolique très forte dans le judaïsme.
Oui, c'est les 70 ans d'exil nécessaires voilà. pour revenir à la lumière.
Voilà,
voilà. Alors je vous propose qu'on parle aussi un petit peu de Pie XII, c'est-à-dire qu'on passe pas toute l'émission peut-être sur cette question, même si elle est très très importante, hein, de l'attitude de Pie XII et donc de l'Église catholique plus largement à l'égard du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'on commence donc par faire connaissance un peu avec cet homme. Donc cet homme, Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, né à Rome le 2 mars 1876. Qu'est-ce qu'on peut dire de son enfance, père Édouard d'Ivry? J'ai lu que tout simplement, voilà, il a grandi dans une famille chrétienne, il a été à l'école chez les religieuses, et surtout, très rapidement, on distingue un élève extrêmement brillant.
Un élève brillant et, je dirais, très ouvert. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas, par exemple, à avoir des amitiés en dehors du cercle étroit de l'Église catholique. Il avait l'amitié en particulier avec la famille Mendès, famille juive, dans laquelle il aura une grande amitié avec un médecin, Guido Mendès, qui l'aidera à fuir vers la Suisse, puis vers Israël, dans sa fondation quelques décennies plus tard. Mais une connaissance donc intérieur au judaïsme, frappante. Il est peut-être le premier des papes depuis Saint-Pierre à avoir participé un vendredi soir à un sabbat. Donc c'est quand même une marque d'intérêt pour le peuple juif remarquable qui se note dans sa première encyclique Summi Pontificatus, dans laquelle il rappelle que la morale qui vient du Sinaï doit être respectée par tous. C'était clairement désigné le judaïsme comme matrice pour la civilisation judéo-chrétienne de l'Europe.
Si on continue, donc j'ai vu que c'était
il
aussi...
Il était également sportif.
Voilà, il était sportif, j'allais le dire, natation, cheval, canot, musicien aussi, donc il était violoniste. Il est ordonné prêtre donc, le 2 avril 1899 et repéré entre autres donc, pour ses dons multiples et variés, entre autres en langue et en droit. Il entre donc à la congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être de ce lieu à Rome? Je ne sais pas si ça a toujours le même nom, mais c'est là où on forme les grands diplomates de l'Église et semble-t-il, c'est presque une tradition dans sa famille, non?
Oui, alors sa famille a été très liée à la diplomatie vaticane et on comprend largement pourquoi Pie XII a toujours su garder le mot mesuré, le mot diplomatique. L'homme qui fait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, eh bien, on peut dire que Pie XII l'a pratiqué d'une manière courante. Il n'était pas celui qui lançait des petits mots à vagues, je dirais, médiatiques. Il n'hésitait pas à dire les choses, mais avec précision et retenue toujours. C'est un diplomate.
Mais c'est un homme aussi, Roger également, Adeline. Un homme secret, pudique. Je crois que c'est quelqu'un qui peut marquer son auditoire par justement cette dimension de réserve. Ce n'est pas quelqu'un qui va exposer de façon ostentatoire des positions, c'est quelqu'un qui va réfléchir et effectivement tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Et il est quand même né dans un environnement, sa famille, son grand-père, son oncle, etc. Tous ont été des architectes de la jurisprudence vaticane, quelque part. Hein. Ils ont tous eu une importance considérable dans ce secteur-là.
Si on devait le décrire, donc en tout cas, il peut être décrit comme tel, grand, fin, un visage un peu grisâtre, des lunettes rondes, une peau de parchemin, une voix forte, claire, un peu nasillarde, une santé délicate, chaleureux, timide, émotif. Voilà ce que j'ai pu trouver en préparant cette émission.
C'est le bien-né quand même. Eugenio, c'est le bien-né.
Bien-né. Eugenio, oui.
Est-ce qu'on peut dire quelques mots donc, de sa carrière diplomatique? Donc il est nommé nonce apostolique pendant la Première Guerre mondiale en Bavière, puis en Allemagne. J'ai vu que certains, alors peut-être certaines mauvaises langue, avait vu dans ses années passées en Allemagne une difficulté à avoir ça aurait pu contribuer à une difficulté à avoir un regard juste sur l'Allemagne. Alors sans entrer forcément dans cette polémique, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'il connaissait l'Allemagne de l'intérieur, père Édouard d'Ivry.
Alors il connaissait très bien l'Allemagne de l'intérieur, il n'a connu que la République de Weimar.
De Weimar, oui.
On représente parfois Pie XII sortant d'une conférence avec des soldats casque à pointe, mais c'était la tenue militaire des soldats allemands, déjà dans la République, avant le régime nazi. Donc il n'y a eu aucune collusion, et Pie XII n'a jamais rencontré Hitler de sa vie.
Il voit la naissance du parti nazi.
Alors il voit la naissance du parti nazi, et il met en garde aussitôt, comme minutante, le danger que représente Hitler, un homme capable de marcher au-dessus de cadavres, dit-il, en le décrivant dans ses rapports au Vatican.
Donc il le dit clairement.
Il le dit clairement, donc d'une manière très nette. C'est-à-dire qu'il a compris aussitôt l'homme, il a compris le Mein Kampf et le danger que représentait Mein Kampf. Donc il est tout à fait lucide sur la personnalité de Hitler qu'il n'a jamais rencontré.
Donc j'ai lu aussi, donc, il le décrit comme un redoutable agitateur politique et une autre citation, « Ou bien je me trompe vraiment beaucoup, ou bien tout cela ne se terminera pas bien ». Donc il a d'autres responsabilités. Il devient en 1929 secrétaire d'État et ensuite le principal collaborateur de Pie XI. Ça aussi, ça a quelque importance. Avant d'être lui-même, pas tout à fait après, hein, avant d'être lui-même élu pape juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 2 mars 1939. Donc cette fois sous le nom de Pie XII. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette collaboration avec Pie XI, père Édouard d'Ivry? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive, j'allais dire, aux affaires de l'Église. C'est pas très heureux parce que c'est pas comme ça que ça se passe tout à
non.
fait dans l'Église
J'ai
catholique,
raison.
Vous corrigerez, mais c'est quelqu'un d'extrêmement averti en tout cas.
Il a eu aussitôt un grand crédit et il a poussé donc certainement Pie XI à écrire cette fameuse encyclique Miteinander Sorge, et qui a été après l'élection de Hitler, qui a été vraiment la réaction catholique officielle, est signée par Pie XI, donc avec une instance brûlante, ce texte.
Alors expliquez-nous,
a dénoncé,
cette encyclique,
donc,
que dit-elle?
Alors cette encyclique critique donc le régime nazi.
Avec un souci brûlant.
Avec un souci brûlant, voilà, littéralement. Et cette encyclique qui a été écrite par un grand résistant, le cardinal Faulhaber, a été donc... annoté par Pacelli, donc le futur Pie XII, et ainsi a entraîné Pie XI à donner ce texte qui était évidemment redoutable, parce que déjà le parti avait saisi l'Allemagne, il a fallu passer cette encyclique sous le manteau. Et dans les 10 000 églises d'Allemagne catholique dans lesquelles elle a été lue un dimanche matin à la messe, eh bien, il a fallu vraiment une stratégie extraordinaire pour que les agents de la Gestapo ne saisissent pas avant l'encyclique. Donc ça a été un coup de maître de la part de l'Église, évidemment, ça lui est retombé dessus après, parce que la fureur de Hitler a été terrible contre l'Église catholique. Déjà, depuis son élection au pontificat, les journaux nazis n'arrêtaient pas d'attaquer Pie XII, mais là encore plus, évidemment, à partir du moment où il y a eu cette diffusion de cette encyclique, parce qu'on se doutait bien que c'était lui, l'homme de main de Pie XI.
Il y avait une véritable crainte, je pense, de la part de Pie XII, de voir la fureur nazie retomber sur les catholiques de façon générale. C'est ce qui lui a été un peu reproché par rapport à sa position, entre guillemets, officielle sur
on y reviendra peut-être.
On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une dimension dont on ne peut pas ne pas tenir compte, je crois.
Juste, est-ce que cette encyclique est connue chez les juifs? Ou est-ce que vous la connaissez?
Moi, je la connaissais parce que
si
je m'intéresse à tout ce qui s'est passé pendant la guerre, et donc bien évidemment par rapport à l'Église. Je ne suis pas sûr que les juifs soient toujours bien informés sur ces aspects-là.
Alors pour le retrouver, elle date du 14 mars 1937, on la retrouve facilement sur le site du Vatican. Elle est contre le culte de la race, c'est surtout cela que vise Pie XI. Et c'est vrai qu'elle a permis de donner des raisons à tous les catholiques de résister. Il y a eu, c'est vrai, une très très belle quantité d'hommes et de femmes en Allemagne qui ont su trouver à ce moment-là de meilleures raisons pour résister au régime nazi.
Et curieusement, ce qui est amusant, c'est de savoir que sa gouvernante était une bavaroise.
Sœur Pascalina.
Voilà, sœur Pascalina, qui est restée toute sa vie à son service.
Tout à fait, et qui l'avait aidé au début à mieux apprendre l'allemand, parce qu'il n'avait qu'un allemand de classe à Rome, et c'est elle qui lui corrigeait ses déclarations et ses discours.
Père Édouard d'Ivry, si on avance à gros traits et on garde la question, j'allais dire la question juive, hein, pardon,
oui.
Je ne veux pas être indélicat, hein, pour la seconde partie,
oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est difficile, parce qu'évidemment... La Seconde Guerre mondiale a occupé presque, j'allais dire, l'intégralité, en tout cas certainement la partie la plus importante de son pontificat. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de l'action de Pie XII, si on devait résumer cet homme?
Alors Pie XII est un homme universel.
Plutôt son pontificat.
Il a beaucoup lu, il a beaucoup travaillé, il avait des équipes extrêmement diligentes pour tous les dossiers qu'il traitait, aussi bien en bioéthique qu'en politique de doctrine sociale de l'Église, pour les matières de la paix, pour les matières doctrinales, pour la liturgie. Il a fait beaucoup de choses à tel point que c'est l'homme le plus cité de Vatican II. Il y a plus de 130 donc citations de Pie XII, alors que
il a négocié dizaines de concordats.
Il a beaucoup négocié des concordats qui sont d'ailleurs toujours en actualité. Même celui qui lui a été tellement reproché avec l'Allemagne continue, parce que ce n'était pas un concordat avec un parti politique comme le parti nazi, mais c'était un concordat avec un pays. Il est toujours d'actualité, le concordat que Pacelli a signé à l'époque avec von Ribbentrop est toujours d'actualité, même s'il a fallu le renégocier au niveau des Länders. C'est-à-dire on en a re-signé une quinzaine depuis pour l'adapter à chaque Länder.
Est-ce que vous pouvez dire, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, sur son rôle, le rôle qu'il a eu aussi après-guerre? Je citais ce titre de d'un éditorial du journal Le Monde. Après-guerre, lorsque le pape donc décède en 9 octobre 1958, semble-t-il, aucune voix ne manque pour saluer le pape de la paix et de l'Europe. Il est dit aussi de lui que c'était un géant qu'il a été le rempart de la civilisation chrétienne. Et le président Eisenhower aurait dit de lui donc, le monde est maintenant plus pauvre. Dites-nous un mot de son rôle après-guerre.
Un homme de la paix, et c'est vrai, je vais vous lire une petite déclaration de lui du mois de août 1946, parce que c'est frappant, juste après-guerre, et il s'adresse aux Palestiniens, chose étonnante, et il voit un danger. Voilà, dit-il, après avoir reçu ces jours derniers encore de nombreux appels et réclamations de diverses parties du monde et pour divers motifs, il est superflu de vous dire que nous réprouvons tout recours à la force et à la violence, d'où que ce soit, comme aussi nous condamnâmes à plusieurs reprises dans le passé les persécutions d'un fanatique antisémitisme qui se déchaînait contre le peuple hébreu. Cette attitude de parfaite impartialité, nous l'avons toujours observée dans les circonstances les plus variées et nous entendons nous y conformer aussi à l'avenir. En 1946, vous voyez, juste au lendemain de la guerre. Donc une déclaration très forte de son attitude vis-à-vis du judaïsme pendant la Deuxième Guerre et voyant déjà les dangers futurs avec la situation des Palestiniens.
Voilà, vous avez un commentaire peut-être sur ce
sujet?
Non,
je trouve que c'est un homme très courageux. Alors, paradoxalement, il a été élu pape au moment de la déclaration de guerre, et finalement, il est resté le pape de la paix. C'est un peu le paradoxe.
Oui, c'est un paradoxe important. Mais ça veut dire, est-ce qu'il a aidé aussi à la construction de l'Europe après-guerre, Père Édouard Divry?
Il a aidé à la construction de l'Europe. Il a été très favorable à De Gaulle, à tous ceux qui ont œuvré pour la paix et aussi pour la construction de nouveaux rapports et de réconciliation, Adenauer, etc. Il a soutenu tous ceux qui concouraient à la paix et à l'avenir de la civilisation, comme on l'appelait autrefois.
Comme beaucoup, je crois qu'il a été très marqué aussi par le drame de la Première Guerre mondiale, des horreurs qui ont pu s'y dérouler. Et donc, du coup, son souci, son grand vœu, c'était de participer à l'œuvre de paix et d'espérance dans le monde.
Voilà, on va faire une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après pour cette émission. Donc, je rappelle le titre, Pie XII, le vrai du faux.
Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo. Me.
tu m'aimes, toi qui m'as donné la foi.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, Pie XII, le vrai du faux, donc Pie XII, pape pendant la Seconde Guerre mondiale, avec autour du plateau Roger Attali, vice-président du CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France de Midi-Pyrénées, et le père Édouard d'Ivry, dominicain, en charge des relations avec le judaïsme pour le diocèse de Toulouse. Alors rentrons dans le vif du sujet, donc de cette question de l'attitude de Pie XII à l'égard des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et de leur massacre, donc qui a été appelé la Shoah. Si mes informations sont bonnes, cette polémique. Alors déjà peut-être, non, on va commencer par ça. Le pape Benoît XVI a déclaré Pie XII vénérable et dans l'Église, on va dire que son procès de béatification est en cours. Quand cette déclaration a été faite, ça semble-t-il heurter une partie de la communauté juive. Est-ce que vous pouvez nous faire état peut-être de la manière dont ça a été reçu dans la communauté juive et pourquoi en fait ça a heurté la communauté juive, Roger Attali?
Alors en fait, je crois que la communauté a été victime, entre guillemets, du manque de communication d'un certain nombre d'éléments concernant l'attitude de Pie XII pendant la guerre et en particulier à l'égard des juifs. En fait, il y avait...
Avant ça, ça veut dire que la communauté a été choquée par cette...
Oui, parce que d'une certaine façon, c'était reconnaître à Pie XII une dimension spirituelle particulière, alors qu'elle a été touchée dans sa chair à travers 6 millions de morts. Donc, il y avait un décalage, en quelque sorte, entre ce processus de béatification, cette volonté de donner à Pie XII une dimension particulière, et la blessure...
Ce qui veut dire que dans les communautés juives aujourd'hui, en France et ailleurs dans le monde, l'idée globalement que...
Non, les choses sont beaucoup plus complexes, je crois. Il faut faire très très attention. Il y a, je pense, une nécessité aujourd'hui. Alors peut-être que justement ce que disait le père d'Ivry par rapport à l'ouverture des archives vaticanes, il y aura peut-être une nécessité de les faire connaître au monde, de façon que les a priori, entre guillemets, le politiquement correct qui malheureusement sévit autour de l'attitude de Pie XII à l'égard des juifs, puisse peut-être se modifier. Alors, je crois que la position initiale des Juifs par rapport à cette situation a été initiée, si je peux dire, à la suite de la prise de position de grands chrétiens, comme Emmanuel Mounier, comme François Mauriac, par exemple. Et donc, du coup, ces grandes voix chrétiennes avait reproché à Pie XII son silence, entre guillemets. Mais le silence, c'est une notion qui est terriblement difficile à cerner. Le silence, ça peut être de la peur, ça peut être de la couardise, mais ça peut être aussi une forme de courage. Et peut-être que justement, ce qui a incité Pie XII à ne pas prendre la parole de façon ostentatoire et grandiloquente, c'est le fait qu'il avait le souci peut-être de préserver l'essentiel.
Oui, il le dit explicitement, par exemple, à Don Skavitsi, chapelain de l'ordre de Malte en Pologne, alors que la Pologne, en mai 1942, était totalement écrasée. Il y a eu des millions de Polonais, qu'ils soient juifs ou non juifs, qui sont morts, quelque chose comme 3 millions, c'est énorme. Il y a eu un écrasement de la Pologne terrible. Et voilà ce qu'il a déclaré. Plusieurs fois, j'avais pensé lancer une excommunication contre le nazisme et dénoncer au monde civil la cruauté de l'extermination des Juifs. Car il le savait. Après l'opération, l'assemblée de Wannsee en janvier 1942, très vite, il y a eu une intensification des opérations antisémites. Et bien sûr, par le relais des diplomates, tout s'est su au Vatican. Donc le pape était parfaitement informé. Il ne s'est pas tu. Parce qu'il n'aurait pas su. Les grands hommes comme De Gaulle, comme Churchill, comme Eisenhower disent « nous ne savions pas ». Donc ça a été leur prétexte. Mais le Vatican savait. Nous avons entendu,
Il communiquait mieux.
Nous avons entendu des menaces de rétorsion très graves, pas contre notre personne, mais contre nos pauvres fils qui se trouvaient sous la domination nazie. De très vives exhortations nous sont parvenues par plusieurs moyens afin que le Saint-Siège ne prenne pas une position radicale. Après tant de larmes et de prières, j'ai conclu que si j'avais protesté, non seulement je n'aurais aidé personne, mais au contraire, j'aurais provoqué la colère la plus féroce contre les Juifs. Ma protestation m'aurait procuré peut-être l'éloge du monde civil, mais en revanche, elle aurait procuré aux pauvres Juifs une persécution encore plus implacable que celle qu'ils subissent déjà. Donc voilà, il renonce à l'éloge du monde civil, et c'est ça un acte de vertu héroïque, voyez, par rapport à celui qui aurait préféré parler pour garder le hurrah de la presse. Voyez.
Alors, on va y revenir. Hein. Si j'ai bien compris aussi, la question de l'attitude de Pie XII pendant la guerre sera née, entre autres, autour d'une pièce de théâtre.
Le Vicaire.
Voilà, jouée en 1963 sur une scène de Berlin appelée Le Vicaire, écrit par un jeune dramaturge, Rolf Hochschütz. Je ne sais pas si je prononce correct.
Hochschütz,
pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette pièce? Et puis, il y a eu d'autres suites, semble-t-il. Alors, entre autres, un livre, Pie XII et le Troisième Reich, après.
Pour être tout à fait honnête, je pense que cette pièce est était quelque part lié à l'idéologie communiste.
Ah, tout à fait.
Et oui. Donc, du coup, elle était vraiment construite à charge contre Pie XII de façon tout à fait claire.
Tout à fait.
Elle a été reprise plus récemment, en 2002, par le film de Costa Gavras qui s'appelle Amen, et qui reprend un peu les thèses du vicaire, à savoir qu'il y a eu une véritable volonté de la part de Pie XII de cacher... Alors, il savait... Il connaissait l'existence des camps de concentration, mais on lui a reproché de ne jamais citer véritablement quelles étaient les victimes ni quels étaient les coupables. Mais c'est ce que vient de dire le père d'Ivry, c'est-à-dire c'était dans le souci de préserver au maximum la vie des Juifs.
La vie des Juifs. Et je crois que ça remonte bien avant 1962, donc à un moment où Pie XII ne peut plus rien répondre. C'est très lâche de la part du régime communiste d'avoir attaqué Pie XII après sa mort. Il ne peut plus se défendre, il faut bien le noter. Car avant, toutes les déclarations de toutes les autorités juives, dont Madame Golda Meir, dont Einstein, etc., ont été favorables à Pie XII. Donc il y a eu un retournement de situation qu'il faut s'expliquer. Or, l'attaque ne commence pas en 62, mais dès le 7 juin 1945, la radio de Moscou s'attaque à Pie XII, parce que Pie XII s'attaque au communisme, vous comprenez, et donc c'est un ennemi. Et donc pour lutter contre le communisme, il devient un ennemi numéro un, et il faut détruire sa mémoire. Vous comprenez comment ça s'est fait? Or, Hout est quelqu'un qui a été dans toutes les affaires de négationnisme,
oui,
et c'est
un ignoble personnage. Il n'est connu d'ailleurs que pour cette pièce, Le Vicaire.
Voilà,
fait une grande œuvre de dramaturge.
Et donc il y avait une opération qui s'appelle Site 12, on comprend bien, siège 12, qui désignait Pie XII. Et c'était ça qui était l'action donc secrète du régime communiste, donc du KGB, pour détruire la réputation de Pie XII.
Alors le pape Pie XII a quand même pris la parole, semble-t-il, à trois reprises, où il aurait rompu donc ce supposé silence. La première fois, c'est à Noël 1940. Il se félicite d'avoir pu consoler par l'aide morale et spirituelle ou par l'obole de nos subsides, un nombre immense de réfugiés, d'expatriés, d'immigrants, spécialement parmi les non-ariens.
Oui, alors le mot non-arien était justement une façon de se faire comprendre par tout le monde, sans être censuré immédiatement par la presse allemande et la censure allemande, parce que toute l'Europe était tombée entre les mains des Allemands, il ne faut pas oublier, et donc du coup, n'importe quel dire pouvait être censuré. Et donc utiliser un langage codé que tout le monde comprenait, eh bien cela faisait qu'il y avait du retard dans la censure, et donc le mot non-arien, tout le monde comprenait que c'était les Juifs. C'était des astuces, si vous voulez, diplomatiques pour éviter la censure.
D'autant que Pie XI XIV avait dit « Nous sommes tous spirituellement sémites ».
Nous sommes tous spirituellement sémites, exactement.
La deuxième intervention, c'était en Noël 1942. Alors, j'ai pas d'extrait, mais en tout cas, mis au courant de l'existence donc, des camps d'extermination, le pape condamne les actes sans préciser explicitement qui sont les victimes ni les coupables. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Père Edouard Divry, de cette déclaration de 1942?
Alors, c'est donc le 24 décembre 1942. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, sont destinées à la mort et à un progressif dépérissement pour la seule raison de leur nationalité, de leur race. Donc c'est très clairement désigné. Ça englobe les Juifs, mais ça englobe aussi les Romanichels.
Oui, oui.
Et les autres, car il est impartial. C'est-à-dire il ne veut pas seulement dire ce que peut-être nous aurions aimé entendre de sa bouche. Il veut sauver tous ceux qui sont injustement attaqués par le régime nazi. Donc il y a les Polonais, il y a les Juifs,
les handicapés et les
Romanichels. Parce que tout, et les homosexuels, tous étaient sous la cible de ce régime tueur.
Hein. Et quelle a été la répercussion de cette déclaration, par exemple?
Alors on le sait par un certain Beaulieu, un Allemand de Bohême, qui avait gardé le document de cette déclaration 42 et qui s'est fait pincer par les SS et qui a eu droit à un procès. Et ce sergent Beaulieu a été envoyé immédiatement, comme tous ceux qui résistaient à l'idéologie nazie, vers le front russe, où en général il se faisait tuer. Là, lui, il a eu beaucoup de chance, ce sergent Beaulieu, parce qu'il en a réchappé. Il est devenu pasteur dans l'est de la France et il a raconté son histoire.
Troisième déclaration, c'est en juin 1943, donc Pie XII précise lui-même « Nous laissons aux pasteurs en fonction sur place le soin d'apprécier si et dans quelle mesure le danger de représailles et de pression, comme d'autres circonstances dues à la longueur et à la psychologie de la guerre, conseille la réserve, etc. » Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette troisième déclaration, Père Edouard Divry?
Alors oui, c'est une lettre à Mgr von Preissing, évêque de Berlin. Le 30 avril 1943, il avait déjà envoyé des lettres publiées en des milliers d'exemplaires au cardinal Saipa de Pologne, mais celui-ci ne les a pas diffusées en répondant au Saint-Père « Si vous les envoyez, vous multipliez les morts. Donc je suis désolé, très Saint-Père, vos lettres sont admirables, mais nous ne pouvons pas les publier. » Donc il en avait eu l'expérience aussi avec l'affaire de Hollande où les évêques de Hollande avaient tempété contre les premières actions antisémites par le régime nazi en Hollande occupée, et la réaction immédiate des nazis, ça avait été de faire une recrudescence des rafles, et ils avaient envoyé aussitôt 40 000 personnes à Auschwitz, dont les premiers étaient les catholiques d'origine juive, dont la fameuse Edith Stein, cette carmélite, et sa sœur Rosa, qui ont été envoyées à Auschwitz immédiatement, en rétorsion contre l'action publique des évêques donc de Hollande. Et alors Pie XII, qui était prêt à faire une déclaration supplémentaire à cause de ses actions antisémites et ses promesses de rafle, a brûlé son papier, c'est sœur Pascalina dont on évoquait le nom tout à l'heure, qui l'a vu brûler sa déclaration en disant « si j'ajoute ça, mais je vais tuer des milliers de juifs supplémentaires, non pas seulement en Hollande, mais peut-être dans l'Europe entière ».
Peut-être était-il d'une certaine façon victime de l'intoxication nazie aussi, d'une certaine façon. Mais à contrario, ce qui s'est passé dans notre région...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que cette peur qu'il avait que les choses empirent encore en parlant, en disant des choses, peut-être que cette peur était, entre guillemets, irrationnelle par rapport à la réalité, encore que la réalité,
elle était assez fondée. Avec la Hollande, avec la Pologne, ils voyaient
comment ça se passait. Oui, c'était simplement pour dire qu'à contrario, la réaction, par exemple, du cardinal Saliège ou de Mgr Théas à Montauban, ont au contraire initié un autre processus, non pas de radicalisation, si je peux employer ce terme, du nazisme, mais au contraire, qui a fait émerger l'aspect des justes des nations, des gens qui ont sauvé des juifs, y compris dans les couvents en particulier. Et ça a été le cas à Rome.
À Rome, Pie XII a donné des ordres.
Il a donné des ordres, et il y a beaucoup de juifs qui ont été sauvés dans des couvents à Rome. Il a évité le bombardement de Rome.
Alors justement, parlons-en. Donc en octobre 1943, donc il y a une rafle
alors,
des
alors
juifs.
Alors peut-être juste un petit avant, parce que vous vouliez les trois déclarations officielles de Pie XII, vous en avez manqué une. C'est celle du 2 juin 1943, allocution Sacré Collège, où il a été le plus explicite Toute parole de notre part adressée à ce propos aux autorités compétentes, toute allusion publique devait de notre part être sérieusement pesée et mesurée dans l'intérêt même de ceux qui souffrent pour ne pas rendre malgré nous leur situation encore plus grave et plus insupportable. Et dans lequel il redit que beaucoup d'hommes et de femmes, même sans faute de leur part, sont tenus à des mesures d'extermination. C'est le premier qui a utilisé le mot extermination. Donc en juin 43, et on est en pleine guerre.
Donc Noël 1940, Noël 1942 et juin 1943. En octobre 1943, donc, il y a une grande rafle des Juifs à Rome qui a lieu, donc, dit-on, presque sous ses fenêtres. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rafle et nous dire justement le rôle qu'a eu Pie XII à ce moment-là, et ses talents de diplomate ont permis d'éviter le pire?
Mais je crois qu'il a donné des ordres justement à l'ensemble de sa hiérarchie pour que le maximum de Juifs puissent être sauvés, et en particulier se réfugier dans un certain nombre de couvents.
Tout à fait.
À Rome.
Tout à fait. Il y a eu une action remarquable des couvents de l'ensemble du territoire occupé par les nazis à Assise ou dans d'autres villes.
Et la rafle a été suspendue aussi.
Non, la rafle a été seulement retardée, car Himmler a aussitôt renvoyé le général qui avait été contacté par les services donc du Vatican, a été envoyé sur le front de Staline. Et donc il a seulement demandé que l'on retarde, que l'on supprime, mais Hitler était décidé à la chose, donc ça n'a pas vraiment servi. Mais il n'y a pas eu deuxième rafle, parce qu'on aurait pu très bien croire qu'après cette première rafle des fosses adréatines, eh bien il y en a eu d'autres. Donc il n'y en a eu qu'une seule. Il a participé cependant aux tributs que les nazis avaient exigés de la communauté juive et qui demandaient 50 kilos d'or à la communauté juive. C'était toujours le procédé. Les juifs doivent payer leur extermination. Donc on faisait un tribut, on piquait l'argent et après ça on payait les trains pour envoyer la population vers les camps de concentration. Donc le régime nazi exigeait 50 kilos d'or. Le rabbin Zoli, qui s'est converti après au catholicisme, n'a été arrivé à trouver que 35 kilos d'or, et il a demandé au Saint-Siège si on ne pouvait pas l'aider. Et oui, immédiatement, Pie XII a donné 15 kilos d'or qu'il a fait chercher partout pour compléter le tribut. Ça n'a pas servi parce que les Allemands avaient déjà leur plan. C'était faux, cette histoire de tribut pour préserver la communauté juive, c'était seulement pour payer les trains. Et donc l'action, je veux dire, du Vatican n'a pas servi, mais un peu quand même.
Donc il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire. Je voulais que vous disiez un mot peut-être de la communication du Saint-Siège, puisque Pie XII était donc un diplomate, d'une famille de diplomates, et puis c'était pas de la même époque, c'est-à-dire que le Saint-Siège n'avait pas la même publicité de ses actions. Roger Attali, est-ce que peut-être ça peut aider à comprendre? En tout cas, est-ce que ça vous aide à...
Moi, je pense que l'ensemble de la communauté est consciente du fait que à cette époque-là, on parlait pas de médiatisation, mais on pouvait parler de communication. La communication de Pie XII a été entachée d'une forme d'impuissance face au raz-de-marée nazi. Et donc du coup, beaucoup d'aspects de la politique de Pie XII à l'égard des Juifs a été totalement anéanti, en tout cas mis sous le boisseau, et donc du coup, ça a pu laisser entendre aux Juifs survivants que Pie XII n'avait pas fait tout ce qu'il aurait dû faire vis-à-vis des Juifs. Je pense que là, il y a un véritable problème de défaut de communication de la part de Pie XII et du Saint-Siège.
Défaut de communication, on veut dire, parce qu'il aurait pu communiquer en off, auprès des autorités juives, c'est ça?
Auprès de l'ensemble du monde civilisé, du monde de l'Europe, vis-à-vis de Churchill, de Gaulle, etc.
Alors, il l'a fait certainement par le réseau de la diplomatie, et il a osé quelque chose de tout nouveau pour les papes, c'est de parler à la radio. Ce qui ne se faisait pas par les papes précédents. Radio Vatican était encore indépendante par rapport à l'occupation, par rapport à Mussolini, puis par rapport à l'occupation donc des nazis. Et donc il a pu parler, il a pris l'audace de parler dans une radio, chose qui était assez nouvelle. Jamais un pape n'avait parlé à la radio comme lui. Donc il a pris des moyens, mais évidemment, qui n'étaient pas proportionnés. Les ondes du Vatican n'allaient pas aussi loin que la BBC ou que d'autres moyens de communication. communication, mais il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. C'est un tout petit État seulement de 40 hectares. On ne peut pas demander à une superpuissance comme l'Angleterre ou comme les États-Unis, qui avaient des moyens énormes, les mêmes proportions de réaction. Il était au cœur du séisme, mais il ne pouvait avoir que ce qu'il avait sous la main pour agir.
Si on peut dire, il a vécu une forme de chemin de croix par rapport à cet aspect-là.
Certainement, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup prié, comme on l'a entendu tout à l'heure dans sa déclaration à ce Polonais.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va parler un petit peu plus rapidement, non pas que le sujet soit pas important, mais on aura d'autres occasions, de la relation de l'Église avec les Juifs, peut-être aussi au regard de cet héritage. Quel est l'état des relations avec les Juifs, peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale.
Présence à Bagnères de Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Pie XII, le vrai du faux, c'est le thème de l'émission Vivante Église ce matin, avec, si vous nous prenez en cours de route, je vous le rappelle, Roger Attali, vice-président du CRIF de Midi-Pyrénées, et le père Édouard Divry, dominicain en charge des relations avec le judaïsme pour le diocèse de Toulouse. Dans cette dernière partie, comme annoncé avant la pause musicale, je voulais donc qu'on parle un petit peu des relations avec de l'Église, enfin entre les catholiques et les juifs, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc il y a une grande déclaration qui a été celle du Concile Vatican II Nostra Aetate, mais avant, est-ce que très rapidement, peut-être trop pour vous, pouvez nous dire quels ont été les précurseurs de ce dialogue, peut-être avant-guerre et puis après-guerre.
Le précurseur précurseur, en mon sens, c'est l'historien Jules Isaac, qui a parlé de l'enseignement du mépris de l'Église pendant tout le Moyen-Âge, etc., et qui a écrit un livre en 1946, qui a été publié en 1948, qui s'appelle « Jésus et Israël ». Ça a été le démarrage d'une volonté de dialogue, de reconnaissance et d'estime mutuelle, suivi en 1947 par la conférence de Zeilsberg en Suisse, qui a donné naissance, une année plus tard, à l'amitié judéo-chrétienne.
Qu'est-ce que c'est que cette conférence de Zeilsberg?
Alors c'est une conférence qui a réuni quelque chose comme 70 ou 80 personnalités du monde catholique, juif et protestant.
Et surtout protestant.
Et protestant, oui. Beaucoup. Donc sur la nécessité d'entamer un véritable dialogue de reconnaissance et d'estime réciproque. Alors que nous avions vécu pendant des siècles et des siècles sur le fameux enseignement du mépris qui désignait le peuple juif comme peuple déicide, etc. Et donc, le Concile Vatican II est venu consolider en quelque sorte cette première initiative fraternelle, de fraternité. Et donc, ça a été l'explosion, si je peux employer ce terme, de Nostra Aetate, donc du Concile Vatican II, organisé par Jean XXIII, et qui a bouleversé complètement les relations entre le judaïsme et le christianisme.
Alors peut-être, sur ces précurseurs, on peut ajouter bien sûr en amont la réflexion de Léon Blois et de Jacques Maritain, qui était son disciple et qui en fait beaucoup sur le mystère d'Israël, la prise de conscience que antisémitisme et anti-judaïsme étaient incompatibles avec la vérité de l'Évangile et qu'il fallait lutter de tous nos efforts contre cet anti-judaïsme qui a fait le lit de l'antisémitisme et que cet anti-judaïsme n'était que accidentel dans l'histoire du christianisme, puisqu'il y avait un anti-christianisme juif à l'origine qui a déclenché cet anti-judaïsme chrétien et donc c'est une sorte de réaction, si vous voulez, mais cette réaction n'est pas constitutive de l'Évangile, dans lequel il est toujours demandé d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Même nos ennemis, nous devons les aimer dans le christianisme. Et donc il n'y a aucune place officielle possible à un anti-judaïsme, quel qu'il soit. Et la position de Blois et de Maritain était très claire, du cardinal Journet. Et Maritain, d'ailleurs, à Zeilsberg, avait envoyé une lettre en délégation par le biais du cardinal Journet, du futur cardinal Journet. Était présent à Zeilsberg aussi le fameux rabbin Kaplan, que vous avez eu pendant longtemps à la tête du judaïsme en France. Oui.
Alors juste sur Nostra Aetate, qu'est-ce qu'a dit déjà cette déclaration Père Édouard d'Ivry pendant le Concile Vatican II, pour ceux qui ne l'ont pas en tête?
Donc c'est le numéro...
Et quelle est la révolution?
La révolution, c'est le numéro 4 de Nostra Aetate, qui dit que c'est en scrutant nos propres racines qu'on découvre le judaïsme. Nous sommes fils de la première alliance et que nul ne peut déclarer être coupable de la mort de Jésus d'une manière indistincte. Tous les juifs, nul ne peut le déclarer parce que c'est faux. Ce sont les chefs de l'époque de Jésus qui l'ont condamné à mort, mais ça ne veut pas dire que tous les juifs, au cours de tous les siècles, seraient redevables de cette condamnation de Jésus. Vous voyez, il y a une réinterprétation de nos propres écritures, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, c'est une expression qui doit être réévaluée dans la vérité du moment et non pas dans une sorte de pérennité pour les siècles.
Vous voyez. Contextualiser,
voilà les expressions, et ne pas les généraliser.
D'autant que dans la loi juive, quand le Sanhédrin, il n'y avait pas de possibilité de... Quand il y avait unanimité dans le Sanhédrin, il y avait 71 voix et non pas 70, justement pour qu'il n'y ait pas d'unanimité. Quand il y avait unanimité, la personne qui était condamnée à mort ne l'était plus.
Donc il y a eu de multiples autres rencontres, commissions de travail et de rencontres, et évidemment les gestes aussi posés par le pape Jean-Paul II, ceux-là sont peut-être plus connus du grand public, sa visite donc à la synagogue de Rome en 1986.
13 avril, oui.
Voilà, et puis après donc des voyages en Israël, et puis voyages en Israël qui ont été faits aussi par Benoît XVI et puis par le pape François. On se rappelle aussi de cette image où on voit Jean-Paul II devant le mur des Lamentations. Peut-être en redire un mot,
oui.
Père Édouard d'Ivry.
Alors peut-être avant, pour ne pas que nous l'oublions, la publication du catéchisme de l'Église catholique, qui est très importante, parce que c'est là que la grande diffusion massive dans la chrétienté peut avoir lieu, parce que Nostra Aetate, bon, c'est un texte du Vatican dans des énormes volumes, c'est plus difficile l'accès. Le catéchisme est un élément de diffusion, je dirais, à la base. Et là, il y a vraiment la doctrine de l'Église. Donc, c'est très important, 93-97, et puis la même année 93, la reconnaissance par le Saint-Siège de l'État d'Israël avec échange d'ambassadeurs. Chose très importante pour le monde juif. La déclaration de repentance des évêques de France 1997. À Drancy, 30 septembre 97, a été très très importante. Et puis tous les discours, effectivement.
Elle s'est faite à Drancy, qui n'était pas innocent.
Qui n'était pas innocent, un lieu de déportation.
Alors, juste devant l'ampleur du drame et le caractère inouï du crime, trop de pasteurs de l'Église ont par leur silence offensé l'Église elle-même et sa mission.
Voilà ce que Jean-Paul II a donc déclaré, et au mur de Jérusalem,
mur occidental.
Le Kotel, le mur occidental, comme on l'appelle, dirigé vers l'Est, Kotel HaMeharavi, comme on l'appelle, et bien c'est là qu'il a déposé cette demande de pardon, et la télévision israélienne chantait au même moment « Je crois de toute ma foi que le Messie viendra ». C'était très beau, cette espèce de coïncidence entre la volonté de montrer, eh bien, voyez, de retrouver des relations saines, un retour à des relations saines entre chrétiens et juifs.
Jean-Paul II a dit « L'alliance avec le peuple juif n'a jamais été dénoncée par Dieu ». Ils sont nos frères aînés, nos pères dans la foi. C'est très fort.
Et il a dit aussi, qui rencontre Jésus-Christ rencontre inévitablement le judaïsme.
Roger Attali, peut-être pour finir, pardon de la simplicité de ma question, mais est-ce que, d'une certaine manière, tout y est maintenant d'une amitié judéo-chrétienne, mais il faut qu'elle infuse et qu'elle se diffuse à la fois dans le peuple chrétien et dans les communautés juives? Ou est-ce qu'il reste des pas à faire?
Je crois qu'il y a, le dialogue ne peut pas cesser, il continue d'être fécond, d'être chaleureux, d'être sincère, fraternel, et il y a aujourd'hui tout un tas d'actions qui sont menées dans ce sens-là. Le père d'Ivry en est la vivante incarnation, si je peux dire, puisque nous travaillons ensemble sur un certain nombre de dossiers, d'actions à réaliser. Par exemple, je vous donne cet exemple-là, j'interviens avec un imam et un prêtre dans le lycée Sainte-Marie de Nevers auprès de jeunes de première et de terminale pour leur expliquer ce qu'est le judaïsme. Je leur fais visiter les synagogues parce que nous... Je crois, c'est quelque chose qui est, je pense, partagé par tous. La haine ou l'exclusion vient de l'ignorance. Lorsque les gens connaissent, ils ont beaucoup plus tendance à voir dans l'autre. C'est ce que disait Emmanuel Lévinas. Je suis éveillé à la conscience par le visage de l'autre.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir éveillés comme ça, des émissions comme ça. On en redemanderait à Radio Présence et à Vivante Église. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, ils ont pu en admirer la qualité. Merci beaucoup et merci à Claire Dautuil de m'avoir aidé à préparer cette émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.